terrible nouvelle du carnage, parce qu'il faut l'appeler comme ça, à Nice. Je l'ai appris le samedi matin, à 6h du matin. Donc tout le vendredi, je n'étais pas au courant. Mais ma réaction par rapport à ces nouvelles était, je pense, la même que beaucoup de Français, mais aussi d'étrangers. D'abord, une sorte d'incompréhension, mais aussi une sorte de découragement. C'est pas possible. Pas encore. Quand cela va-t-il s'arrêter ? Avec cette question que l'on se pose dans les temps difficiles, jusqu'à quand ? Jusque à quand ? Quelque chose qui ressemble à un écœurement, de trop-plein, ou même à un épuisement. Quelques jours après Nice, il y a un panneau qui apparaissait dans la série des « Je suis » qui nous accompagne depuis maintenant un an et demi ou plus, je ne sais plus. Je suis Charlie, je suis Bruxelles, je suis Istanbul, je suis Nice, je suis Bagdad, je suis Bangladesh. Et puis, on regarde, je suis épuisé. Et on peut discuter de la pertinence de cette expression « je suis » qui montre la solidarité et non pas l'identification, bien sûr. Mais le « je suis épuisé » me semblait pertinent lui aussi. Épuisement dans la solidarité, épuisé de vivre ces images et ces témoignages de gens dans la détresse, dans la souffrance. Jusque à quand cela va-t-il durer ? Et cette question du jusqu'à quand, certains personnages de la Bible se la sont posés alors qu'ils vivent ou assistent impuissants à des temps de souffrance et d'injustice flagrante. Et ils ne disent pas cette phrase. Ils la crient. Et ils la crient à Dieu. Jusqu'à quand va-t-il se taire devant tant de souffrances injustes ? Job le crie. David, ou la crie, cette phrase. Asaph aussi, qui est l'auteur de quelques psaumes, crie cette phrase. Et puis, il y a Habacuc. Habacuc, qui, comme son nom ne l'indique pas spécialement, est un petit prophète de l'Ancien Testament, petit par le nombre de chapitres, 3 chapitres. Un petit livre coincé entre Nahum et Sophonie, ça vous aidera peut-être pour le trouver. Petit mais grand, par la pertinence de... Alors, Habacuc ne vit pas dans une époque facile, on est dans les années 609-605 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire le 7e siècle. Et ça va en décroissant. Il est prophète dans le royaume de Juda, c'est-à-dire autour de Jérusalem. Et on est loin, à cette époque, du règne de David et du grand royaume. David, c'est aux environs de 1000 avant Jésus-Christ. On est très loin de ce... Gadol Israël, comme on dit en hébreu, ce grand Israël. Le roi de Juda, à l'époque, au 7e siècle, à l'époque d'Habacuc, s'appelle Jéhoiakim, mais ce n'est pas le meilleur leader politique qui soit. Il est pro-égyptien, et cette alliance n'est pas la meilleure qui soit non plus. Et quand le pouvoir politique est faible, il y a des troubles dans le pays, il y a de l'injustice sociale, il y a de l'oppression, il y a de la violence, il y a de l'idolâtrie. Il y a d'énormes menaces extérieures qui pèsent sur le royaume de Juda et il y a très peu d'espérance. Il y a beaucoup de souffrance et très peu d'espérance au 7e siècle, avant Jésus-Christ, dans le royaume de Juda. Et le pire, c'est que cela ne risque pas de s'arranger. Moins de 20 ans plus tard, en 787, Jérusalem sera détruite et commencera l'exil à Babylone. On est au bord de la catastrophe et Habacuc le vit très mal. Et parce qu'Habacuc ressent très profondément cette souffrance, à la fois morale et spirituelle, il va s'adresser à Dieu avec ces mots « jusqu'à quand ?» au verset 2 du chapitre 1. « Jusqu'à quand ?» ça commence comme ça. Et il est connu pour ces deux mots « jusqu'à quand ?» vont durer ces injustices et cette violence. C'est insoutenable. Et surtout... jusqu'à quand va durer ce silence de Dieu ? Jusqu'à quand vas-tu te taire et laisser faire ? Le questionnement d'Habacuc, jusqu'à quand, ô Éternel, appellerai-je à l'aide sans que tu entendes mon cri ? Jusqu'à quand devrais-je crier vers toi à la violence sans que tu nous délivres ? Pourquoi me fais-tu voir de telles injustices? Peux-tu rester indifférent à nos tourments? Dieu peut-il rester indifférent à la souffrance des hommes, de ceux qu'il a créés? Comment toi qui es juste, dit Habacuc, peux-tu tolérer l'injustice? Et ce qui est remarquable, c'est de voir qu'Habacuc se sent le droit de questionner Dieu à ce sujet. Comme beaucoup d'autres auteurs de la Bible, comme David, comme Job, il n'y a pas de tabou sur la question de la souffrance injuste, il n'y a pas d'omerta, hein, cette loi du silence, si je me souviens bien, sur cette question de la souffrance. Jamais l'Écriture, jamais la parole de Dieu n'essaie d'étouffer le cri des enfants de Dieu qui sont dans la souffrance et la détresse et qui n'en comprennent pas le sens. Et ces mots, on les a peut-être déjà prononcés, peut-être pour les événements de Nice ou pour des événements plus personnels. Jusqu'à quand cela va-t-il durer? Ce n'est pas tenable. Je ne vais pas tenir. Je ne vais pas résister longtemps. Et on ajoute peut-être, si on est bon, si ça continue, ça va cesser. Si ça continue, je vais cesser de placer ma confiance en Dieu. Jusqu'à quand cette impression Dieu ne s'occupe pas de notre monde et de mon monde? Jusqu'à quand va-t-il laisser ces terroristes nous massacrer? Et ce livre d'Habacuc est très pertinent parce qu'il nous parle d'un homme en proie à toutes ces questions, en prise avec Dieu, on va dire, en prise de tête même avec Dieu, ou en prise de tête à tête avec Dieu. Et il va dans un premier temps dialoguer avec ce Dieu en lui posant toutes les interrogations, voire même les questionnements qu'il a sur le cœur. Tes yeux sont bien trop purs pour accepter de voir le mal. Tu ne peux supporter la vue de l'affliction. Pourquoi supportes-tu la vue des traîtres? Pourquoi gardes-tu le silence quand l'impie, le mauvais, le mal, engloutit un plus juste que lui? Tu traites les humains tout comme des poissons ou comme des bestioles qui n'ont ni chef ni maître. Car le Chaldéen, c'est le Babylonien qui, cette menace extérieure qui menace d'envahir le royaume de Juda et qui va le faire. Car le Chaldéen les prend tous à l'hameçon, il les drague dans son filet et les entasse dans sa nasse. C'est pourquoi il se réjouit et il exulte, le Chaldéen, mais pas moi. Comment peux-tu permettre tout cela? Habacuc ose poser les questions qui fâchent, mais qui, en même temps, vont permettre à Habacuc d'avancer. Car poser les questions, les vraies questions, les bonnes questions, ou les questions qui fâchent, mais Dieu n'est pas fâché, permettent d'avancer. Et Habacuc va avancer dans sa réflexion, et à la fin de son livre, il va faire des pas décisifs. Il va prendre des engagements. Alors qu'il s'interroge sur ce monde de souffrance qui l'entoure, Habacuc va prendre trois engagements qui sont magnifiques et qui peuvent peut-être nous servir d'exemple, nous qui vivons des temps difficiles. Et le premier engagement d'Habacuc, c'est de décider, il décide de regarder à long terme. Habacuc 3, verset 16, « J'ai entendu cette nouvelle. J'en suis tout bouleversé, mes lèvres balbutient et mes os se dissolvent. Je reste là, tremblant, puisque je dois attendre tranquille. J'attendrai le jour de la détresse où l'ennemi qui doit nous assaillir attaquera le peuple. » Alors, le verset commence par la peur. Littéralement, j'ai les genoux qui tremblent. Mais tout doucement, il passe à l'attente tranquille. Tranquille ou confiante. Il le doit, il le faut et il veut le faire. Je vais, dit-il, je vais. Où j'attendrai le jour, où je vais attendre l'ennemi dans la confiance. Dans quelle confiance? Qu'à l'avenir, qu'à long terme, justice sera faite. Dieu sait ce qu'il fait. Et plus tard, ce sera évident pour tout le monde. Aujourd'hui, cela ne l'est pas. Les Chaldéens arrivent, leur réputation les a précédés. Ça va être violent, ça va faire mal, mais j'ai confiance en Dieu qui tient les choses dans sa main, dans la main du juste juge. Et le thème de cette attente va se retrouver au chapitre 2, versets 3 et 4, car c'est une révélation qui porte sur un temps fixé, qui parle de la fin et n'est pas mensongère. Si même il faut attendre que vienne l'Éternel, attends-le patiemment, car il vient sûrement, il ne tardera pas. Si quelqu'un flanche, il n'est pas droit de cœur, mais le juste vivra grâce à sa foi. Ça viendra certainement, dit Habacuc. La justice de Dieu viendra certainement. Et cette phrase par laquelle on connaît Habacuc et qui a été reprise par Paul plusieurs fois et par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, le juste vivra par la foi. Le juste qui vit dans l'injustice et qui vit cette injustice dans la souffrance, il vivra par la foi, c'est-à-dire dans la confiance que la justice de Dieu s'accomplira en son temps, en temps fixé. Et le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, a repris ce terme dans le contexte justement où d'un appel à la persévérance, je parle de l'Épître aux Hébreux, il ajoute encore un peu de temps, un tout petit peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Et là, il parle de Jésus. Il ne tardera pas. Celui qui est juste vivra par la foi. Et il cite Habacuc. L'Épître aux Hébreux a été écrite 5 siècles après le livre d'Habacuc. Et on retrouve le même couple, attente, foi, apprendre à regarder à long terme, à attendre avec confiance, tranquille, même si ça boue au-dedans de nous. Et pour nous, attendre avec confiance s'apparente à tout un programme, à tout un parcours, à une éducation. Nous qui regardons plus souvent à la gratification immédiate ou à la punition immédiate. Il faut que le bien soit pensé tout de suite et que le mal soit puni tout de suite également. Il me semble que bien souvent nous sommes dans la vie comme avec un GPS. J'ai acheté un GPS il y a un an maintenant, et j'en suis très content. Mais le GPS nous donne les directions rue après rue. Dans 200 mètres, tournez à gauche. Et c'est très pratique, et en général, on arrive à destination. Mais le problème avec le GPS, c'est qu'on manque de vue d'ensemble. On peut en avoir, mais c'est tellement petit qu'on ne voit rien. Et en général, on reste sur ces directions rue après rue. Ou route après route. Parfois, on ne sait même pas où se trouve la destination finale sur la carte avec le GPS. Et s'il y a un problème avec le GPS, on est complètement perdu. Et il nous faut de temps en temps, dans la vie comme dans l'orientation, avoir une vue globale, une vue d'ensemble. Il nous faut de temps en temps déplier la carte Michelin complète, là, qui prend toute la table du salon, pour avoir une vue globale, une vue d'ensemble, et cela en particulier quand les choses vont mal, quand la situation devient vraiment difficile. Habacuc nous demande de regarder à long terme et à la foi, à la fin de l'histoire, je viendrai certainement. Job, qui vit une situation particulièrement difficile, elle est différente de celle d'Habacuc, que mon défenseur est vivant et qu'il se lèvera au dernier jour pour prononcer le jugement. Littéralement, celui qui se lève le dernier, c'est ce que dit Job 19:25, c'est celui qui prononce le jugement et qui a le dernier mot de l'histoire. Savoir regarder à long terme. Et puis le deuxième engagement qu'Habacuc prend, c'est celui de se réjouir en l'Éternel. Mais moi, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. J'exulterai de joie à cause du Dieu qui me sauve. Yvonne a parlé du sourire tout à l'heure. C'est comme si la menace de dévastation de l'invasion des Chaldéens permettait à Habacuc de se recentrer sur Dieu et de retrouver en Dieu, et pratiquement en Dieu seul, la joie de vivre. Et pourtant, le verset juste avant, le verset 17, juste avant le verset 18, donc, où il parle de la joie, dit « Car le figuier ne bourgeonnera plus, il n'y aura plus de raisins dans les vignes, le fruit de l'olivier trompera les espoirs, les champs ne produiront plus de pain à manger, les moutons et les chèvres disparaîtront de leurs enclos, les bœufs de leurs étables. » Mais moi, verset 18, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. Il n'y aura aucun sujet de joie autour de moi, mais néanmoins je veux me réjouir en Dieu, nous dit Habacuc. Un recentrage de la joie. Alors on va dire par défaut peut-être, ou par élimination des autres sujets de joie, peut-être oui, mais en même temps l'engagement d'Habacuc ne ressemble pas à de la résignation fataliste. Ce n'est pas « il n'y a plus que cela, donc je vais me réjouir en Dieu, il n'y a plus que lui ». Ce n'est pas tout à fait ça. Le choix d'Habacuc ressemble plus à la détermination, à de la détermination. Habacuc prend la décision de se réjouir dans le Seigneur parce qu'il a compris par la souffrance que c'est la seule chose à faire, et cela dès le départ. Se réjouir en Dieu, recentrer sa joie sur Dieu, c'est la vie du juste et c'est la vie du chrétien aujourd'hui. Et parfois, il nous faut une période difficile pour le comprendre. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là. Et que c'est là ma joie. Quand rien ou pas grand-chose me donne la joie, je sais que tu es la source de ma joie et je veux faire ma joie de ta présence, de ta justice, de ta personne, de ta grandeur. Alors le Nouveau Testament nous parle de la joie. Vous connaissez Philippiens 4:4, réjouissez-vous toujours. Et si on s'arrêtait là, on pourrait croire à une mauvaise plaisanterie. Mais Paul rajoute « dans le Seigneur ». Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Philippiens 4:4. En lui, dans le Seigneur, en lui, à cause de lui. Et ce qui fait, c'est lui qui fait toute la différence et qui rend cette joie possible. Et il y aurait beaucoup de choses à dire sur le thème de la joie. Mais il nous faut retenir cette décision d'Habacuc. Toutefois, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Habacuc 3, verset 18. Faut-il toujours une période de détresse pour opérer ce recentrage? Peut-être. Et nous pourrions nous poser aujourd'hui la question de savoir sur quoi repose réellement notre joie, quelle en est sa source, son fondement. Et puis il y a un troisième engagement d'Habacuc, il choisit de louer Dieu, de passer de la plainte à la louange. L'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. Il rend mes pieds pareils à ceux des biches. Il me fait cheminer sur des lieux élevés. Et la fin du verset et la fin du livre confirment qu'il s'agit bien d'une louange, parce qu'il remet cela au chef des musiciens pour le mettre en musique, pour le chef des musiciens à chanter avec accompagnement d'instruments à cordes. Et on peut être surpris de cette finale quand on considère l'introduction. « Jusqu'à quand, ô Éternel, appellerai-je à l'aide ?» chapitre 1, verset 2, « sans que tu entendes mon cri, jusqu'à quand devrais-je crier vers toi à la violence sans que tu nous délivres ?» Et chapitre 3, verset 19, « pour le chef des musiciens à chanter avec accompagnement d'instruments à cordes. » De la plainte, de la complainte, du questionnement, de l'angoisse à la louange. Un passage assez radical qui a permis à Martin Lloyd-Jones, que David connaît certainement, d'écrire un livre sur Habacuc, « De l'angoisse à la foi ». C'est ce passage qui est extraordinaire et je vous invite à lire le livre d'Habacuc, 3 chapitres, cette semaine, pour voir ce passage. Et ce passage est d'autant plus remarquable que la situation n'a pas changé, que les perspectives sur le présent et sur l'avenir immédiat ou à court terme sont toujours aussi sombres. Les Chaldéens vont venir. Cela ne fait pas l'ombre d'un pli. Et ce qui a changé, c'est la compréhension d'Habacuc de la nature même de Dieu et de son projet pour les hommes. Ce qui a changé, c'est la relation d'Habacuc avec Dieu. Et à travers cette période difficile de sa vie, il a avancé dans cette relation. Un petit peu comme Asaph, qui a écrit, comme vous le savez, le psaume 73. Et Il se pose plein de questions, Asaf. Surtout la question de savoir pourquoi lui, il est dans la détresse, alors que les méchants qui n'ont... Les méchants, c'est l'homme sans Dieu, en fait. Hein. Ce n'est pas qu'il soit colérique ou chose comme ça. C'est l'homme sans Dieu, alors que l'homme sans Dieu semble prospérer dans la violence. Et Asaph le dit, « Pourtant, il s'en est fallu de peu que mes pieds ne trébuchent à rien de plus. Et je tombais parce que je me posais tant de questions. J'étais jaloux des arrogants en voyant la prospérité des gens méchants. » C'est intenable, ça. Il y a des gens qui vivent leur foi et qui ont toutes les misères du monde et d'autres qui s'en fichent de Dieu, il faut le dire, et qui prospèrent et qui sont tranquilles. Alors il dit au verset 13 du psaume 73, « Alors c'est donc en vain que je suis resté pur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence ? Tout ça pour rien ?» Et au verset 16, « Je trouvais tout cela bien trop injuste. » Je trouvais tout cela bien trop injuste, comme Calimero. C'est trop injuste. Et verset 17, jusqu'au jour où je suis entré dans la maison de Dieu, où j'ai trouvé une relation personnelle et intime avec Dieu. Et il ajoute, où j'ai réfléchi au sort qui les attend, ces méchants. Et là, on rejoint la vision à plus long terme. Asaph et Habacuc doivent cette meilleure compréhension des choses à ce dialogue qu'ils ont avec Dieu, ce contact avec la parole de Dieu qui leur a été adressée. Et c'est là, dans sa présence, à l'écoute de la parole de Dieu, cette parole qui sera personnifiée par Jésus-Christ, il est le Verbe incarné, le livre incarné, la parole incarnée, c'est à l'écoute de Jésus, parole de Dieu faite chair, que nous pouvons passer doucement peut-être, à d'autres rythmes, de la plainte, de la complainte, de l'angoisse, du repli sur nous, sur nous-mêmes, à la louange. Et ce n'est pas du stoïcisme. Le stoïque, c'est celui qui reste imperturbable devant tous les chaldéens du monde et qui chanterait même par défi, même pas peur. Moi, je suis stoïque. Ce n'est pas du stoïcisme. Ce n'est pas non plus de la pensée positive. Vous connaissez cette gymnastique personnelle de la pensée positive qui influence parfois même les milieux chrétiens. Il faut penser et chanter positif, comme ça on irait mieux. Non, c'est la réponse du juste qui vit par la foi, non pas une foi de charbonnier qui ne comprend rien à ce qui se passe, mais qui y croit quand même. Non, c'est la foi d'un homme perturbé, la foi d'un homme et d'une femme, ou d'une femme perturbée par ce qu'il voit autour de lui, mais qui le dit à Dieu, « Seigneur, je ne comprends pas. » Et qui s'attend avec confiance. Et j'ai envie de dire, et la louange finit par surgir spontanément. Alors que nous aurions plus envie spontanément de nous plaindre que de louer le Seigneur. C'est normal, nous ne sommes pas meilleurs qu'Habacuc, Job ou Asaph. Pourquoi ? Jusqu'à quand ? Oui, Dieu, dans ma vie et dans ce monde. Corrie ten Boom, une Hollandaise, s'est posé toutes ces questions dans le camp de consécration de Ravensbrück, où a péri toute sa famille, sa sœur, ses parents, parce qu'ils étaient à Ravensbrück parce qu'ils avaient caché des Juifs en Hollande. Et comme elle le raconte dans son livre « Dieu en enfer », ce n'était pas avec les Chaldéens. Alors, Dieu en enfer, ce n'était pas les Chaldéens, mais d'autres hommes mauvais, les nazis, des hommes mauvais comme il y en a à chaque époque, pour chaque génération. Mais Corrie ten Boom nous dit qu'elle est entrée dans ce camp de Ravensbrück avec une foi très vague, très sociale, comme il peut y avoir cette foi protestante en Hollande. Mais elle est sortie de ce camp de Ravensbrück avec une relation avec Dieu qui était intense et solidement fondée dans sa parole. Elle aussi, comme Habacuc, elle a pris des engagements dans un contexte difficile de souffrance. L'engagement de regarder à long terme, en la justice de Dieu, il viendra certainement. L'engagement, de se réjouir en Dieu et en Dieu seul, ou en tout cas de trouver le fondement de sa joie en Dieu, celui enfin de passer de la plainte à la louange. Que le Seigneur nous donne de nous inspirer de ses engagements d'Habacuc pour résister dans ces temps qui sont difficiles, pour résister comme l'ont fait Marie Durand, Corrie ten Boom et d'autres encore. Que le Seigneur bénisse la prédication de sa parole. Amen.